L'inattendu porte bien son nom, Éric de Vantary met en scène sur le drôle de texte qu'avait livré il y a quelques années un jeune auteur, alors âgé de 29 ans, Fabrice Melchiot. L'inattendu, un mot pour tenir debout, conclut Liane. Alors qu'est-ce qui tient debout dans cette pièce? Qu'est-ce qui met en éveil Éric de Vantary?
Alors plutôt que tenir debout, c'est essayer de tenir debout, je dirais, pour la comédienne et pour les musiciens, parce qu'il y a trois musiciens qui sont intégrés dans la scénographie. Quand je dis intégrés, ils font partie de l'histoire de Liane, du personnage. Ils entrent dans son histoire. Et je crois que les quatre essaient de tenir debout, essaient de se relever, en fait, pour peut-être à la fin, oui, mais c'est même sûr, tenir debout, effectivement. Et puis repartir sur une page vierge. Permettre au personnage de se libérer, en fait, de faire un deuil, puisque c'est l'histoire d'un deuil, la perte d'un premier amour, en fait, et puis s'ouvrir à une plus grande maturité et à des amours possibles.
Alors, toute la vie est faite de deuil, toute la vie est faite de seuil, d'apprentissage sans doute, mais aussi justement d'ouverture de soi. Saint Jean disait que pour que quelque chose naisse en l'homme, il faut que quelque chose y meure. Qu'est-ce qui n'arrive pas à mourir en Liane et qu'est-ce qui advient?
Alors, ce qui n'arrive pas à mourir, c'est le... En tout cas, sur la... quasi-totalité de la pièce, qui n'arrive pas à mourir, c'est son amour pour cet homme, au point pour le personnage de Liane, de nier la réalité, de nier cette disparition. Elle pense qu'il est parti, et de fait, il s'est noyé dans le fleuve au bord duquel ils habitaient. Elle pense qu'il est parti et qu'il va revenir. Elle nie encore plus la réalité, puisqu'elle voit apparaître des bouteilles avec des couleurs qui sont un peu à la manière de la Madeleine de Proust, des évocateurs, des souvenirs, des possibles, j'aime bien ce mot, possible. Et puis, c'est ça, c'est vraiment s'affranchir de son histoire et se passer de l'adolescence à l'âge adulte, d'une certaine manière.
Alors Marcel Proust, que vous citiez, l'un des auteurs qui a sans doute peut-être le plus écrit sur la question du deuil, sur la question de la perte de l'autre, comment naître à cette perte de l'autre. Vous nous l'avez dit, il y a un fleuve, une jeune femme, un disparu. Tout cela fait très parcours initiatique, conte. Que reste-t-il de ces éléments, puisqu'il y a un aspect aussi très, très labyrinthique dans cette pièce?
Oui, alors... Ce qui reste du conte ou du caractère onirique de la pièce, c'est vraiment la mise en forme, la scénographie, puisqu'on travaille sur un plateau rectangulaire, donc pour signifier encore l'emprisonnement, l'enfermement de cette jeune femme dans sa pièce. C'est comme si elle vivait dans une seule pièce. Mais en même temps, je parlais de rêve, d'onirisme. Le plateau, le sol du plateau est fait de tourbe. Il y a des bouteilles vides, il y a des bouteilles avec les couleurs qui sont ces couleurs qui vont lui apparaître. Et sur ces bouteilles sont posées des planches. Tout ça dans un équilibre extrêmement précaire, avec lequel on joue, avec lequel on se joue. Et puis, il y a aussi une porte qui est comme si elle avait été arrachée, balayée. Et puis, donc on reste dans l'image de scène, on reste dans quelque chose de très rêvé. On travaille avec un petit peu de brouillard au début, puis après un petit peu de fumée pour donner un peu de matière aux éclairages. Donc on reste dans le rêve de ce point de vue. Par contre, du point de vue du jeu, pour la comédienne, on est dans un rapport, j'aime pas tellement le terme identification, mais on est dans un rapport plutôt réaliste dans l'engagement de la comédienne dans son jeu.
Alors, c'est une pièce évidemment qui appelle l'installation plasticienne, également la peinture, puisque effectivement elle est en quelque sorte, elle comporte autant de couleurs que de scènes. Hein. On passe du noir au blanc. Comment est-ce que vous avez parcouru cette palette qui est aussi un piège parce qu'elle est très précise dans le texte de Melchiot?
Alors on l'a conservée dans l'apparition des bouteilles. Si ce n'est pour la dernière, blanc, où finalement, il y a encore une semaine, on avait encore une bouteille blanche avec c'est plus du liquide, mais c'était du plâtre qui avait pris dans la bouteille, qui a maintenant disparu. Donc on a gardé l'évolution des couleurs que propose Melchiot. Par contre, on n'a pas du tout appuyé cet état au niveau de la lumière. On est resté dans des lumières d'ambiance, dans des glissements progressifs. Et puis, ce qui m'intéressait, et c'est peut-être le côté matérialité, en fait, plus que l'évolution des couleurs, on passe par une évolution de la matière dans les bouteilles. Au début, on est vraiment dans du liquide qui pourrait être presque des eaux de vie. Enfin, une eau de vie bleue, j'en ai rarement vu, jamais vu. Mais on est plutôt dans quelque chose de très liquide. Et puis, on va vers la densité, on passe par le sang, puis après la terre. En même temps que Liane se reconstruit, que le personnage se reconstruit, les bouteilles prennent plus de matière.
Alors, justement, pour faire ce lien entre les couleurs et le phénomène de la réminiscence chez Liane, il faut dire donc qu'un souvenir par couleur chez elle, d'une certaine manière. Donc, il y a quasiment une métonymie, un transport de l'un à l'autre. Et c'est vrai qu'en proposant d'abord des éléments liquides et puis ensuite comme une sorte de sédimentation, en fait, de ce souvenir par couche, par état successif, vous l'amenez vers quelque chose de plus solide. En même temps, dans l'écriture, qui fait un petit peu poème déglingué, elle est aussi très imagée par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait justement de ce trop-plein d'images suscitées par le texte lui-même? Lorsqu'il parle des couleurs, il ne parle pas d'un bleu quelconque, comme celui de vos yeux, non pas qu'il soit quelconque, Éric de Vanthéry, mais il parle d'un bleu de Prusse, et non pas d'un bleu d'outre-mer. On parle d'un rouge de Saturne, et pas d'un rouge carmin. Donc il y a quand même une manière très précise de courtepointer comme ça les couleurs et de lier au souvenir. Entre souvenir et couleur, déjà.
Alors, entre souvenir et couleur, j'ai pas fait une recherche iconographique pour trouver, par exemple, le bleu de Prusse ou le rouge de Saturne qui soit parfait. Donc, ce qui m'intéressait, c'était plus effectivement le caractère évocateur. Et au-delà du caractère évocateur, pour moi, il y a une bascule qui s'opère avec les couleurs et donc, comme je disais, avec la matérialisation ou la matérialité des couleurs. Il y a une bascule qui s'opère parce qu'au début on est dans le souvenir et puis quand on arrive au sang, on commence à être dans une immédiateté, dans quelque chose qui semble être plus réel pour Liane. Et puis ensuite on va quasiment dans une espèce de prospection, on va vers l'avant, on va vers le futur. Et donc ces bouteilles en fait, ou ces couleurs, elles évoluent et elles restent pas attachées à une simple forme et puis une suite de souvenirs qui serait finalement des platitudes, parce que si on avait ces sept souvenirs, alors bon, on pourrait aussi avoir sept comédiennes ou cette histoire, et là il y a quand même une véritable unité, une véritable progression du personnage.
Alors justement, cette progression, en fait, parce qu'il y a comme aussi une manière de se sanctuariser soi-même dans l'attente. Et c'est vrai qu'on ressent cette attente à la lecture du texte, à sa vision aussi telle qu'elle avait été présentée il y a de cela quelques années au Centre d'art contemporain, je crois, que, en fait, c'est une attente qui, à la fois, évidemment, suscite tout un faisceau d'espoir, tient la personne debout et en même temps l'effondre. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce double mouvement qui est en elle. Comment est-ce que vous avez joué sur ce texte, d'ailleurs relativement bref, mais qui pourrait, comme Herzstück de Heiner Müller, se jouer sur plusieurs heures aussi, donc suivant comment on est dans le rythme, dans la syncope ou dans la rythmie par rapport à ce qui est écrit. Mais sur cette attente, comment est-ce que vous l'avez ressenti par rapport au personnage?
Alors d'abord, c'est vrai qu'il est bref, mais j'ai finalement coupé un certain nombre de passages, parce que on serait déjà arrivé à un spectacle qui aurait duré peut-être 2 heures ou 2 heures et quart, et pour moi c'était trop long sur cette histoire en fait. Dans la progression du temps, dans la manière dont l'attente se donne à voir, j'ai beaucoup travaillé avec la musique, justement, avec les trois musiciens de l'ironie du son, pour essayer, et pour moi c'est toujours un des grands défis de la scène, c'est comment mesurer le temps ou comment donner le temps. Alors il y a évidemment le temps du spectateur, qui normalement correspond au temps des comédiens, mais pas forcément à celui des personnages. Mais donner, par exemple, avec les musiciens, on a pu se permettre d'insérer deux morceaux. Enfin, j'aime pas le terme morceau parce que pour moi, l'ensemble de la pièce, c'est un morceau. Mais disons deux morceaux qui durent à peu près 2 minutes 15, 2 minutes 30, où on a vraiment une progression temporelle. On a notamment un travail avec le percussionniste, Cyril Bondy, qui fait qui donne à voir une évolution du temps. Et sur la question de l'attente, pour revenir sur la question de l'attente avec le personnage de Liane, tel que j'ai abordé la pièce ici, on est presque dans une forme de double deuil, à savoir que quand elle s'arrache finalement de son amant, de ses souvenirs, qu'elle est prête à de nouveaux horizons, elle s'arrache aussi du plateau, c'est-à-dire que la comédienne vraiment quitte l'espace scénique, puis quitte la lumière. La lumière meurt, et on pourrait presque imaginer que de fait, elle s'est arrachée à son deuil et elle meurt. C'est peut-être aller un petit peu loin, mais il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre. Donc on dépasse l'attente pour aller vers un néant, en fait.
Alors un néant, c'est vrai, en même temps, le bonheur, la vie surgit comme les herbes folles ici au galpon, de manière interstitielle entre les rails, entre le béton. Et c'est vrai qu'il y a cette très belle phrase, parce que la vie, c'est ce qui nous arrive quand on fait autre chose, peut-être bien. Donc la vie qui reprendrait le dessus, quoi qu'il faudrait s'entendre sur ce terme, un peu comme par hasard. Est-ce que justement le rôle du hasard, de l'aléatoire, comment vous l'avez approché dans cette pièce?
Alors, je ne veux pas trop révéler les quelques tournants de la pièce, mais c'est vrai que j'ai parlé de précarité, plus que précarité, de fragilité du plateau, de fragilité de la comédienne, et dans le dispositif scénique, donc avec ces bouteilles qui sont posées sur le plateau, plus des planches qui ne sont pas fixées, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du hasard, du risque que tout s'écroule, et tout peut s'écrouler. Les bouteilles peuvent tomber, les bouteilles sont placées dans l'espace scénique de manière identique chaque fois, il n'empêche que la comédienne peut trébucher, renverser une bouteille supplémentaire. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du hasard, un hasard contrôlé évidemment, mais on est dans une espèce de fragilité visuelle.
Alors fragilité visuelle, révélation visuelle, dans le sens photosensible, photographique du terme, on passe du noir au blanc et Liane va aller dans le monde, sortir de la chambre de cette caméra oscura dans laquelle elle est, pour la reproduire d'une autre manière. Qu'est-ce qu'il en est vis-à-vis de l'image photographique, qui est sans doute un des grands pièges qui se posent par rapport à une mise en scène ou une scénographie, en tout cas à partir de ce texte?
Alors, au niveau de l'image photographique ou même de l'image en mouvement, très rapidement, j'ai écarté toute idée de projection. D'autre part, je trouve que c'est toujours difficile les projections, enfin très souvent difficile les projections sur un plateau. Je les ai écartées parce que je voulais rester dans quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine théâtralité. Alors, j'avais imaginé, j'aime beaucoup les lâcher, j'avais imaginé de lâcher 1000 feuilles blanches, en fait, qui serait tombé des cintres. Outre tous les problèmes techniques, j'y ai renoncé parce que c'était peut-être une fausse bonne idée. Et finalement, je conserve dans la question de la révélation, de la confrontation au monde, je conserve l'idée principale du texte, à savoir ces bouteilles. Et puis, il y a une matière qui est plus ou moins brune, qui sort d'une bouteille, qu'elle étend sur une planche, et elle voit apparaître ces images. Puis après, elle se confronte. Il y a plusieurs moments où elle s'adresse au public, mais là, c'est vraiment un moment où elle fait face au public, face au monde, et elle reconstruit les images que le personnage de Liane est censé voir. Mais il n'y a aucune illustration. Ça reste dans le texte.
Justement, ce qu'il y a dans le texte, c'est Liane qui le dit. Le monde, je le vois qui brûle, bon Dieu. Mon insouciance, bon Dieu, je ne veux rien savoir, je veux croire au jour levé, à l'espace insupporté entre deux baisers, je veux croire à mon histoire. Évidemment, dans cette manière de voir le monde en incendie, on peut retrouver des échos de ce que certains ont appelé ce théâtre catastrophe anglais, qu'on pense à Edward Bond, qu'on pense à Sarah Kane, des auteurs, des dramaturges, avec lesquels vous êtes en compagnonnage depuis de longues années. Qu'est-ce qu'il en est, justement, de ce rapport à la fois de seconde main, photosensible au monde, et puis en même temps, justement, de cet incendie, de cette insouciance qui va, d'une certaine manière, se naufrager?
Peut-être plus qu'insouciance, je dirais même, il y a une certaine complaisance dans le personnage de Liane. Et c'est vrai que ça arrive souvent lorsqu'on ne se sent pas très bien, qu'on a un petit peu des états dépressifs. Et on peut tomber dans des rapports de complaisance. Finalement, c'est tellement bien de souffrir. Je crois qu'elle est vraiment dans ce rapport, en tout cas au début. Et puis, la question de la catastrophe ou des catastrophes, mais c'est un petit peu, je dirais, un piège, parce que notamment, il y a un moment où Yann évoque une quantité de pays, Afghanistan, Rwanda, Birmanie, Kosovo, Liban, Tchétchénie, etc., etc. Évidemment, c'est un moteur, c'est un révélateur de, on va dire, de la grande histoire et de la petite histoire, pour reprendre Godard, à savoir l'histoire, la fable de Liane, et puis l'histoire en termes d'histoire universelle. Mais j'ai préféré noyer la confrontation au monde. Notamment, elle est submergée par la musique. Et du coup, c'est vraiment la musique qui fait partie de son univers dès le début. Il y a très peu de silence. Il y a un silence absolument pertinent et signifiant pour moi. Après, il y a des choses plus atmosphériques, mais là, tout à coup, dans cette énumération, dans cette confrontation au monde, elle finit par être submergée par la musique et donc, finalement, d'une certaine manière, submergée par son histoire. Et c'est juste une manière, pour moi, de donner une perspective au personnage, c'est-à-dire que le personnage se rend compte que, finalement, c'est pas si terrible son histoire, mais je trouve que je voulais pas souligner l'espèce de miroir qu'il y a entre son histoire et l'histoire avec un grand H, parce que pour moi c'est presque un peu facile.
Un peu facile, on n'est pas donc par exemple chez Martin Krimp, c'est-à-dire qui réécrit effectivement des tragédies, qui prend de grands mythes, où il parle au travers de cela de la Bosnie, du Rwanda ou d'autres zones. Là, c'est vrai qu'en lisant Melchior avec Afghanistan, Kosovo, on a un petit peu l'impression de name-dropping, c'est-à-dire vous parliez de cette adolescente qui a une dimension doloriste en elle-même, hein, comme ces héroïnes des romans russes du tournant du 19e et 20e siècle, notamment, il y a un certain bovarisme aussi peut-être chez elle, mais il est vrai qu'on aurait pu en faire quelque chose assez illustratif par rapport à toutes ces zones de conflit qui sont données. Est-ce que pour vous, Melchior, il y a une ironie par rapport à ça, ou c'est vraiment une manière de citer ce qu'est la catastrophe au monde?
Je crois que c'est plus de l'ordre de la citation. Même en termes de matière textuelle, c'est pas très long, ce moment où elle se confronte au monde, alors qu'elle dit qu'elle y passe 5 ans. Mais en termes de paragraphes, ce sont 3-4 paragraphes. Donc je crois qu'on est plus dans l'ordre de la citation, et je peux pas présumer de ce que voulait écrire Melchior, mais je pense que ce qui ressort pour moi, c'est ce parcours initiatique, c'est cette libération, cet affranchissement du personnage, et puis oui, cette libération, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la libération, et donc c'est plus un déclencheur qu'une mise à l'index. Si on pense à Sarah Kane dans Anéanti, là on est très clairement, on a une opposition entre Leeds, Angleterre, et puis les conflits dans les Balkans. Là, je crois pas. On est dans les conflits au sens générique.
Alors, pour reprendre la cartographie ou même la géographie de pièces d'Edouard Bond, on va venir à celle de Melchior tout de suite. C'est vrai que souvent, sa fable, c'est un homme ou une femme qui se trouve dans un espace clos, une chambre. C'est donc le syndrome pascalien du repos impossible, assis à une table, et ensuite qui va passer par cercles concentriques, par étapes successives, dans une sorte de GN, c'est-à-dire un séjour des morts qui est le monde, et puis qui ensuite va revenir dévasté à son point de départ, mais qui a changé, un petit peu comme un ruban de Möbius, on a l'impression de repasser au même endroit, mais ça change toujours. Chez Melchior, Liane va faire ce voyage de 5 ans peu relaté, mais tout de même, et elle en revient dévastée. Je reprends le point de départ, elle dit « j'avais 20 ans, tout juste, et le monde, c'était 4 murs bien droits, je m'en fichais, je ne voulais pas bouger, rester sage à t'aimer, toujours au même endroit. » Alors, le déplacement, qu'est-ce que c'est dans cette pièce, cette géographie qu'il y a?
Alors, ça reste le même endroit, puisque j'évoquais le rectangle qui est finalement la matrice du jeu. Par contre, on a travaillé sur plusieurs plans. D'abord un plan de dépouillement, c'est-à-dire qu'il y a une évolution dans le costume. Coralie Chauvin a proposé un costume qui, dans un premier temps, va être maculé, puis ensuite arraché, déchiré. On commence avec un peignoir, quelque chose de tout à fait en même temps quotidien, mais qui est un petit peu grand, qui donne un peu cette image des boxeurs qui vont entrer sur un ring, ce qui va se passer pour le personnage de Liane. Et puis, la dévastation, elle est aussi travaillée, la géographie du texte est travaillée, puisque avec la tourbe, évidemment, il y a un long travail de préparation du plateau, à peu près une heure de préparation du plateau, pour que la tourbe soit totalement vierge, enfin immaculée. Et puis, Liane, le personnage, la comédienne, pardon, Rachel Gordy, va imprimer ses empreintes dans cette tourbe, va la maculer en fonction des différentes bouteilles qu'elle trouve. Les bouteilles qui sont posées sur les planches vont tomber. On va vers une dévastation de son enfermement, de son univers clos, pour la libérer. Donc on laisse des empreintes, des traces, des évidences comme ça, des pièces à conviction presque. Et donc l'univers clos se modifie, explose.
Alors justement, cet univers explose aussi parce que un soir, son amant disparaît. Liane, comme on l'a souligné, refuse de croire à sa mort et attend son retour plusieurs années. C'est donc une attente qui est peuplée de boissons et de flacons de verre. Alors c'est vrai que là, il y avait aussi le défi de se dire, est-ce qu'on les représente, est-ce qu'on les représente pas, est-ce qu'on en fait vraiment un élément constitutif de ce parcours comme un tressage, un quilt avec les mots. Qu'en est-il justement sur cette attente hantée de boissons et de flacons de verre? Parce que vous l'avez représenté de manière peut-être à la fois, j'entends, très réelle, sonore également.
Oui, alors j'ai voulu conserver les bouteilles, mais on en a rajouté un certain nombre, manière d'évoquer en fait des souvenirs qu'on ne nous aurait pas racontés en tant que spectateur. Et puis, vous parliez d'installation au début, oui, d'installation artistique. Il y a quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire que tentative d'esthétiser en fait cet univers et puis de travailler avec finalement le minimum, les bouteilles. Alors, enfin le minimum, c'est déjà beaucoup puisque maintenant il y a de la tourbe, il y a des planches, etc. Mais vraiment de partir de ces bouteilles et d'utiliser quasiment que ça comme accessoire. Et donc de pousser, en fait, de radicaliser cette proposition d'apparition des bouteilles, et puis d'essayer de donner de nouvelles perspectives avec ces bouteilles.
Alors, parcours initiatique, conte, onirisme, le style est très imagé. On va parler de l'écriture, peut-être, de Melchior, c'est-à-dire la phrase même de Melchior. On en a cité plusieurs, et c'est vrai qu'une des particularités, c'est l'absence ou la quasi-absence, disons, de ponctuation à certains moments donnés. Alors, c'est un autre défi que celui que poserait un texte de Sarah Kane, mais c'est quand même un très grand défi dans le placement du souffle, dans le sens, suivant les arrêts, suivant la syncope. Et comment est-ce qu'on travaille cette langue en répétition avec la comédienne? Comment est-ce qu'on la lit aussi, Éric Deventer?
Alors, on avait fait une première performance au MAMCO, il y a une année et demie, qui était vraiment différente. On avait déjà le principe des bouteilles, mais on était vraiment dans le caractère performatif, avec des capteurs sonores, des capteurs de mouvement sur la comédienne, et puis un travail très électronique au niveau de la musique. Je pense que c'est resté comme un arrière-plan, parce que quand on reprend les répétitions, même une année et demie après, on a comme ça des sédiments, des couches, des strates qui sont derrière nous. Et ensuite, sur le travail de la langue, on s'est d'abord, dans un premier temps, attaché à un travail plutôt réaliste, alors qu'il est dans beaucoup d'images, beaucoup d'évocations, c'est très poétique. Donc on a essayé de ramener à quelque chose de réaliste, de naturaliste même, on peut le dire. Et puis ensuite d'articuler ce naturalisme par certaines incises qui sont aussi données dans le texte. Il y a des moments où le personnage parle d'elle-même à la troisième personne. Elle dit... j'ai pas en tête... Ici, Liane a le vertige, par exemple. Et donc là, on a essayé de travailler à la fois dans une rupture, et puis aussi par moments d'aller chercher le public, et donc de revenir à quelque chose qui serait plus de l'ordre de la narration, du conte, dont on parlait un petit peu avant. Et les articulations se sont opérées comme ça. Mais je voulais pas non plus tomber dans le piège du monologue où on prend le public en otage ou où on vient complètement s'imbiber ou comme une éponge, on vient prendre le public pour soi. Et donc l'idée principale, la trame, on va dire, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre d'un récit, d'une fable. Elle se raconte son histoire. Et évidemment, par contamination, elle va vers le public. Mais on a travaillé sur quelque chose de plutôt naturaliste.
Ultime chose, c'est une pièce du déchirement entre la chambre et le monde, mais elle est habitée d'une vitalité enfantine absolument extraordinaire, malgré les passages qui effondrent, à la fois le corps et l'âme. Qu'en est-il justement de cette vitalité, notamment au travers de la partition musique? Parce qu'au départ c'est un monologue, mais là on a plus l'impression vraiment d'un quatuor concertant ou dissonant parfois.
Oui, il y a une véritable polyphonie qui s'est établie. Les musiciens ont travaillé sur toutes les répétitions avec nous, avec la comédienne. Du point de vue de la vitalité, je pense qu'il y a la comédienne qui a sa grande part de responsabilité et d'envie, de désir, de force, de puissance à raconter ce texte. C'est elle qui m'a fait découvrir le texte. Évidemment, c'est pas une commande, puisque s'il m'avait pas plu, s'il s'inscrivait pas dans mon parcours, je l'aurais pas fait. Mais je connaissais d'autres textes de Melchior. Et la vitalité, elle est redoublée par l'enthousiasme, mais il n'y a pas de naïveté là derrière, vraiment par l'enthousiasme des musiciens. Ça fait 12 ans qu'ils travaillent ensemble, mais c'est la première collaboration pour le théâtre. Je les ai rencontrés il y a 4 ans pour un projet justement théâtral qui ne s'est pas fait, faute de moyens. Et il y a vraiment, je crois que dans tout le processus de création, ce désir, cet enthousiasme et cette découverte finalement, elle s'est mêlée à l'histoire qu'on raconte. Et pour devenir la découverte générale de ce personnage.
Comment le titre, vous le lisez ou ne le lisez pas, l'inattendu?
Alors, en fait, le titre, pragmatiquement, il se lit de manière extrêmement simpliste, parce que c'est le dernier mot de la pièce, que j'ai coupé. Je trouvais que c'était totalement redondant. Et puis... L'inattendu, c'est, comme vous le disiez, c'est la question de la vie, c'est ce qui nous arrive quand on fait autre chose, effectivement, le hasard, Mallarmé. Et puis l'inattendu qui est, c'est simplement ce premier acte qui précipite toute la pièce, la noyade de l'amant. Et... Je crois que c'est là-dedans, mais c'est vraiment la question du hasard, du coup de dé. Et c'est pour ça que j'ai pas gardé les derniers mots, parce que je trouvais que, enfin, j'espère que c'est suffisamment signifiant, ma mise en scène, pour qu'on en ait pas besoin.
Alors, Mallarmé, le hasard, le coup de dé, je vais juste vous demander si vous voulez vous prêter à l'exercice sur le mur qui est en face de vous, de lire la phrase que vous avez mise, comme les autres ici, nous sommes au galpon. En couleur, en tout cas, rouge sang. C'est, je crois, le spectacle qui clôt cette dernière saison du Galpon. Après la lecture de cette phrase, que je vous demanderai simplement, c'est ce qu'a représenté ce lieu pour vous.
Alors, le Galpon. J'aime la fidélité artistique des personnes qui l'animent et la plateforme que ce théâtre représente pour de nouvelles formes. J'aime cet espace, sa liberté et la manière dont il s'est enrichi au fil du temps. Le Galpon, c'est un lieu qui est venu me sauver pour ma deuxième mise en scène, où je m'étais retrouvé à quelques mois de la première sans lieu, puis qui m'a ensuite donné une carte blanche pour une deuxième pièce, Supermarché, et puis que je retrouve pour la troisième fois. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de le plus important et ce qui est dramatique avec sa future disparition, c'est cet espace de liberté. Non seulement lié aux personnes qui l'animent, qui font ce galpon toute l'année, qui sont là derrière le bar, à l'entrée et à la technique, mais aussi l'espace lui-même. C'est magnifique. On a un plateau de 12 mètres par 15 qu'on peut habiter et animer absolument comme on veut. On peut le prendre en bifrontal, à l'italienne, j'ose pas le mot, mais en tout cas dans un rapport frontal habituel. Et c'est vraiment, c'est un espace de tous les possibles. Et puis, je parlais d'enrichissement au long des années, c'est vrai que maintenant on arrive, c'est du théâtre indépendant au sens où ils ne peuvent pas coproduire ou produire des spectacles, mais on a un accueil qui est, dont certains théâtres institutionnels pourraient s'inspirer et dont on pourrait rêver, qu'on pourrait espérer avoir dans certains théâtres institutionnels. Il y a vraiment une présence et un respect du travail très grand.
Qu'est-ce qu'il en serait pour vous des prolongements éventuels du Galpon ailleurs ? On sait, je crois, que Gabriel Alvarez va se rendre à la Parfumerie. En même temps, ce lieu, comme vous l'avez dit, a une singularité. Il est unique et il ne peut être... D'autres lieux ne peuvent s'y substituer, comme le T50 ou, je crois, l'Alchimique ou peut-être avec certaines modalités. Est-ce que pour vous, par rapport à des demandes vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de Sandrine Salerno, par exemple, est-ce que vous auriez justement, quelque part, un lieu, sans le citer, sans le nommer, quitte à ce qu'il soit construit, qui pourrait l'être de ce point de vue-là ?
Alors, il y a déjà énormément de lieux vides, de locaux commerciaux et des espaces immenses à Genève qui pourraient être réquisitionnés. Je pense que ça serait un acte politique extrêmement fort. J'avais lu dans la presse, alors je ne sais pas où ça en est maintenant, l'évocation de la caserne des Vernets, en tout cas d'une partie, d'une halle, ou je crois qu'une halle de gymnastique. Moi, je trouverais que ça me plairait énormément que ça se passe là-bas, qu'on piétine les soldats avec du théâtre. Et puis sinon, ils ont le collectif qui anime le Galpon a une telle énergie, puis je pense qu'après il pourrait aussi bénéficier de nos forces, enfin je veux dire de tous les créateurs qui sont passés par le Galpon. Je crois qu'ils sont prêts à qu'on leur donne un volume, un espace équivalent, et ils vont repartir. Alors c'est pas repartir de zéro évidemment, mais je crois qu'ils sont prêts à retremper les pinceaux pour peindre en noir, etc. Donc ils ont... Je ne sais pas où on pourrait être. On peut toujours rêver. Il y a eu le projet de la nouvelle comédie entre les deux fleuves, au bout de la jonction. Maintenant, il y a l'espace Kugler. Je ne sais pas comment ça se situe actuellement. Mais si on pouvait, puisque j'en bénéficie aussi, si on pouvait avoir un espace équivalent au centre-ville. Et ils existent, ces espaces. Il n'y aurait même pas besoin de construire.
Alors, justement, la disparition, la quasi-disparition du squat à Genève, vous avez, faute de locaux notamment, ou par choix aussi, beaucoup répété dans des squats qui ont aujourd'hui disparu. C'est une réalité à la fois pour des gens qui viennent du théâtre, mais des chorégraphes indépendants. Le Galpon était aussi quelque chose qui faisait usage pour ces répétitions, pour un certain nombre de compagnies indépendantes, de jeunes chorégraphes. Actuellement, il y a deux compagnies importantes, dont celle de Gilles Jobin, qui ont obtenu des lieux, et celle de Botello. Lorsqu'il y a eu cette réunion le 28 février du RAC, Madame Caroline de Cornière s'est empressée de dire qu'il y avait déjà un engorgement de demandes vis-à-vis de leur lieu, donc ils ne pouvaient pas, non pas ne pas accueillir toute la misère du monde, mais en tout cas tous les indépendants qui venaient notamment au Galpon. Qu'est-ce qu'il en est justement par rapport à ces locaux pour créer, vis-à-vis notamment de la disparition du site Artemis, également de celle programmée, peut-être pas dans un futur immédiat, de Motatom. Et lors de cette réunion du RAC, certains comme le maire Daunet, actuel président du Parti Socialiste Genevois, René Longet, avait parlé justement de ce groupe de concertation entre communes pour trouver absolument des zones culturelles de développement, des locaux, de faire la recension de ce qui existait et non pas de se refiler la patate chaude comme ça se fait encore maintenant. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Est-ce que vous, artistes, vous allez voir des gens comme René Longer, vous lui dites, ben voilà, il y a eu des paroles très, très importantes qui ont été prononcées ce 28 février. Ce groupe de concertation qui est un des reliquats de ce qu'a été la conférence culturelle genevoise qui renaîtra, on l'espère, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que vous en faites? Nous, on est sous pression, à partir du mois d'août, on n'a plus rien.
Alors, je ne peux pas dire que j'ai pris les devants, parce que c'est vrai que par rapport au Galpon, je ne pensais pas que ça serait si précipité. Mais depuis une année, je partage, et ça a un prix, une salle de répétition avec une compagnie de théâtre en anglais. C'était une nécessité parce qu'effectivement, il n'y a plus de squat. J'ai répété dans les squats par choix, mais aussi par plaisir. C'était pas uniquement financier, il y a vraiment quelque chose qui m'intéressait dans ce rapport de répétition, de création, de confrontation à l'autre. Et là, ça a été un choix individualiste, mais la question était, j'ai besoin de pouvoir travailler quand je veux, et il faut un lieu. Et on a cherché, mais même pour trouver un lieu qu'on loue, c'était difficile. Et alors on a une petite salle de répétition de 80 mètres carrés, qui convient bien, qu'on a pu aménager avec des tapis de danse, que l'ADC et le Galpon nous ont donné. Et puis, ça nous permet de travailler, vraiment de travailler, de pratiquer en dehors de la contrainte de la représentation. Et j'espère qu'on va trouver des solutions, des pistes. Et après, la question par rapport aux politiques et ce qu'ils peuvent dire et faire, c'est... comment, si ces lieux existent, si ces lieux de répétition apparaissent? Parce que je crois qu'au-delà de la question du lieu de représentation, le déficit le plus important, ce sont les lieux de répétition, même pour les théâtres institutionnels. Et si de tels lieux ouvrent, j'espère l'attribution, ou en tout cas la gestion de ces lieux se fera de manière juste et équilibrée. Parce que j'ai l'impression que souvent dans les choix, pas forcément parce que certains parlent plus fort que d'autres, mais que dans certains choix, des personnes qui ont besoin de travailler vraiment se retrouvent sans espace, et d'autres qui, parce que c'est une posture ou une imposture, peuvent avoir des espaces. C'est un petit peu schématique, hein, j'ai bien conscience de ça, mais j'espère qu'il y aura une véritable équité dans la manière dont on pourrait bénéficier de ces salles. Peut-être comme c'est le cas déjà pour la danse, avec les studios au Grutli, où je crois que c'est vraiment c'est abordable en termes de prix, et puis je crois que c'est assez ouvert.
Alors peut-être dans le cadre de cette maison de la culture qu'a annoncé Patrice Muni, un projet déjà relativement ancien qui a pris plusieurs formes, en tout cas on le souhaite. Éric Devanteri, merci beaucoup.
Merci.